Ici Téhéran, voix de la République islamique d'Iran.
Au nom de Dieu, le très miséricordieux, le tout miséricordieux. Recueillons-nous pour méditer ensemble sur les versets 1 à 6 de la Sainte Sourate Bayana. Nous vous en présenterons tout d'abord la lecture chantée et ensuite la traduction.
A'oudhou billahi minash shaytanir rajim. بسم الله الرحمن الرحيم لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين منفكين حتى تأتيهم البينة رسول من الله يتلو صحفا مطهرة فيها كتب قيمة وما تفرق الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءتهم البينة وما حنفاء ويقيم الصلاة ويؤت الزكاة وذلك دين القيمة صدق الله العلي العظيم.
Ceux les gens du livre qui m'écroient, ainsi que les faiseurs de Dieu, ne cesseront pas jusqu'à ce que leur vienne la preuve. Un messager de la part de Dieu récite des feuilles purifiées, où sont des prescriptions droites. Et à ceux qui le livre a été donné, ne se sont divisés qu'après que la preuve leur fut venu. Il ne leur a été commandé, cependant, que d'adorer Dieu en purifiant pour lui la religion en sincère et d'établir l'office et d'acquitter l'impôt. Et voilà la religion de droiture. Oui, ceux des gens du livre qui m'écroient, ainsi que les faiseurs de Dieu, au feu de la gêne, pour y demeurer éternellement. De toute la création, ce sont eux les pires.
Chers auditeurs, bienvenue sur les ondes de la radio francophone iranienne. Vous pouvez nous capter tous les soirs de 18h20 à 19h20, temps universel, sur ondes courtes, dans la bande des 49 mètres, sur la fréquence de 6135 kHz, en Europe et en Afrique du Nord. À Téhéran, nos auditeurs peuvent nous entendre à la même heure sur FM, dans la fréquence de 99,5 MHz. Vous pouvez également nous capter sur les satellites Hotbird et Eutelsat 3.
Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue sur les ondes de la Voix de la République islamique d'Iran ce vendredi soir 25 décembre de 2020. Merci infiniment d'être fidèle à la radio francophone iranienne. Bienvenue dans le journal. L'Iran a mis en garde les États-Unis contre de toutes provocations. La Syrie a repoussé une agression israélienne. L'Union européenne et le Royaume-Uni ont conclu in extremis un accord sur l'après-Brexit. C'était les principaux titres de l'actualité. En voici le journal. Le président iranien Hassan Rouhani, dans des messages séparés adressés aux dirigeants du monde, tout en félicitant la naissance de Jésus qui est écrit, béni soit-il, et le début de la nouvelle année 2021, a appelé les dirigeants des pays à travailler plus dur, et cela à la lumière d'une coopération régionale et mondiale pour surmonter les crises auxquelles le monde est confronté et pour accélérer le processus de lutte contre le coronavirus. Le monde d'aujourd'hui est confronté à de nombreuses crises sociales, culturelles, économiques et politiques. Il est nécessaire que les dirigeants des pays, à la lumière de leur volonté et de leurs efforts communs et grâce à une coopération régionale et mondiale, travaillent plus dur pour surmonter les crises ainsi que pour accélérer le processus de lutte contre le coronavirus et le retour à la vie normale, a souligné le président Rouhani. Le ministre iranien des Affaires étrangères, Germain Majawad Zarif, a réagi aux dernières accusations sans fondement du président américain Donald Trump contre Téhéran. Dans un tweet, le ministre iranien des Affaires étrangères, Germain Majawad Zarif, a déclaré que Trump ne pouvait pas détourner l'attention de ses échecs catastrophiques en mettant ses propres citoyens en danger à l'étranger. Nous allons revenir en détail sur ce sujet dans notre commentaire politique. La défense anti-aérienne de Syrie a intercepté des missiles israéliens sur la province de Hamar. La défense aérienne syrienne a intercepté de vendredi à l'aube des missiles tirés par Israël sur la province de Hamar, a rapporté l'agence de presse officielle syrienne Sanar. Aujourd'hui, l'ennemi israélien a mené une agression aux missiles depuis le nord de la ville libanaise Tripoli contre la zone de Moussiaf dans la banlieue ouest de Hama, a rapporté Sana, citant une source militaire. Les systèmes de défense anti-aérien ont intercepté les missiles et en ont abattu la majorité, a précisé Sana. La télévision publique syrienne a diffusé des images montrant l'armée de l'air syrienne répliquant à l'attaque israélienne. des avions de guerre israéliens ont été entendus alors qu'ils survolaient le Liban, voisin de la Syrie, peu avant les frappes. Israël, qui n'a pas commenté ces informations dans l'immédiat, a mené des centaines de frappes en Syrie depuis le début de la guerre en 2011 pour soutenir les groupes terroristes armés. L'Union européenne et le Royaume-Uni ont conclu in extremis un accord sur l'après-Brexit. L'Union européenne et le Royaume-Uni ont conclu, c'était jeudi, un accord sur leurs futures relations commerciales, 7 jours seulement avant la sortie effective du Royaume-Uni du bloc communautaire qui marque le virage le plus important de la politique étrangère britannique depuis des décennies. L'accord va permettre de préserver l'accès sans quota ni droit de douane du Royaume-Uni au marché unique européen qui compte quelque 450 millions de consommateurs, mais n'empêchera pas des perturbations et des effets économiques indésirables pour le Royaume-Uni ou pour des États membres de l'Union européenne. Un homme noir non armé tué par un policier dans l'Ohio, indignation aux États-Unis. Âgé de 47 ans, la victime se trouvait dans le garage d'une maison dans la nuit en fait de lundi à mardi quand il a été touché de plusieurs balles par le policier. Un homme noir a été tué par un policier blanc dans l'Ohio, le deuxième en quelques semaines dans cette ville du nord des États-Unis, provoquant l'indignation dans un pays traversé depuis le printemps par un mouvement historique contre des violences policières. Et de Centrafrique présidentielle, l'ex-président Joto Dia soutient la candidature du président sortant Touadéra. À 3 jours de l'élection présidentielle en Centrafrique, l'ancien président de transition Michel Joto Dia a annoncé qu'il avait décidé de soutenir la candidature du président sortant Faustin Archange de Touadéra. Lors d'une déclaration à la presse, l'ex-chef de la coalition rebelle Séléka a considéré M. Touadéra comme le meilleur candidat, appelant les citoyens à voter pour lui. Il a également condamné la recrudescence des violences dans le pays dans cette période électorale. Pour M. Joto Dia, ces troubles sont de nature à perturber le processus électoral en cours et à déstabiliser le pays à cause des intérêts égoïstes de certains. L'accord de libre-échange africain est la seule voie vers le développement durable, selon un responsable de la CEA. L'accord sur la zone de libre-échange continentale africaine doit être rendu effectif car il est la seule voie pour le continent vers le développement durable, a fait valoir un haut responsable de la Commission économique des Nations Unies pour l'Afrique. David Luc, coordinateur du Centre de politique commerciale africaine de la CEA, a tenu ses propos lors d'un webinaire sur la couverture effective de la SLECA. Ne sous-estimons pas l'importance de l'initiative SLECA, a-t-il déclaré. Il n'y a pas de plan B. Nous devons veiller à ce que la SLECA fonctionne, a-t-il conclu. Eh bien, chers amis, c'est la fin de notre journal d'information. Merci infiniment de l'avoir suivi. Merci beaucoup pour votre fidélité à la radio francophone iranienne. Restez avec nous, nous allons vous présenter dans une poignée de secondes notre commentaire politique. Téhéran met en garde les États-Unis, ce dont nous vous parlerons dans notre commentaire politique. Le ministre iranien des Affaires étrangères, Mohammad Javad Zarif, a réagi aux dernières accusations sans fondement du président américain Donald Trump contre de Téhéran. Dans un tweet, Mohammad Javad Zarif a déclaré que Trump ne pouvait pas détourner l'attention de ses échecs catastrophiques en mettant ses propres citoyens en danger à l'étranger. Le président sortant américain Donald Trump a prévenu mercredi qu'il tiendrait l'Iran pour responsable en cas d'attaque mortelle contre les Américains en Irak. Dans le même temps, le secrétaire d'État américain Mike Pompeo avait fait les mêmes déclarations des prétendants que des groupes soutenus par l'Iran avaient mené l'attaque contre l'ambassade américaine à Bagdad. Téhéran rejette ces accusations comme étant irresponsables, affirmant que Washington voulait créer des tensions dans la région avec de fausses déclarations. Washington a déjà réduit récemment son personnel diplomatique dans la capitale irakienne et les spéculations sur une fermeture pure et simple de son ambassade récurrente refont surface ces derniers jours. La diplomatie iranienne, répondant par la voix de son porte-parole aux nouvelles accusations répétitives et sans fondement contre l'Iran, a qualifié, c'était jeudi, de fuite en avant coutumière, l'attitude de l'administration finissante et impopulaire de Trump. Tout en rejetant les accusations sans fondement et montées de toutes pièces de Donald et de Trump et du commandement de centrale de l'armée américaine de Saint-Com, le porte-parole du ministère iranien des Affaires étrangères, Saïd Khatibzadeh, a déclaré « Comme nous l'avons déjà dit à maintes reprises, les attaques contre des locaux diplomatiques et résidentiels sont inadmissibles dans la politique étrangère de l'Iran. Dans ce cas particulier, il faut pointer du doigt les États-Unis et leurs alliés qui cherchent à semer de nouvelles tensions dans la région. Comme nous l'avons déjà dit, la riposte de l'Iran au terrorisme américain sera flagrante, courageuse, appropriée. Il vaut donc mieux que le régime américain utilise des excuses plus plausibles pour justifier cette campagne de sédition, a-t-il poursuivi. Le porte-parole du ministère iranien des Affaires étrangères a conclu en adressant un sévère avertissement au président sortant. Évitez d'attiser les tensions et les aventures dangereuses dans ces derniers jours de votre vie politique à la Maison-Blanche. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette émission Le Débat. Le conseiller pour les affaires internationales du président turc Recep Tayyip Erdogan a fait état il y a quelques jours des pourparlers qui sont en cours entre la Turquie et Israël. Il a en fait a déclaré que si le régime israélien franchit un pas, la Turquie va en franchir deux pour aller en fait vers la normalisation des relations entre Israël et la Turquie. Il a fait même état d'une possible ouverture des ambassades d'Israël et de la Turquie. Cette prise de position de la Turquie intervient à un moment où, vous en souvenez, c'était en 2009, il y avait de cet accrochage verbal entre
de Recep Tayyip Erdogan, oui, le président du régime israélien, de Shimon Peres, en fait, de l'accrochage verbal qui a valu au président turc des félicitations du monde arabo-musulman, très particulièrement des groupes palestiniens, et très particulièrement encore le mouvement de la résistance de islamique de Palestine, Hamas. Ensuite, il y a eu ce raid israélien contre la flottille de la liberté. C'était en 2010, je suppose, et cela a abouti en fait à la tension des relations entre Israël et le régime israélien. Et depuis, en fait, cette tension existait en fait de plus ou moins entre les deux parties. Mais dans l'état actuel des choses, la Turquie, qui avait souligné dans une époque vouloir avoir zéro de tension, zéro problème avec ses pays voisins, semblerait, mettons-le au conditionnel, envisager d'établir des relations, de normaliser des relations avec Israël. Qu'est-ce qui a poussé la Turquie à en fait avancer ses pourparlers avec la partie israélienne? Est-ce que ces pourparlers vont aboutir, comme l'a dit le conseiller pour les affaires internationales de Recep Tayyip Erdogan, à l'ouverture des ambassades d'Israël et d'Ankara? On va en parler avec deux invités de marque dans le cadre de l'émission d'aujourd'hui. J'ai le plaisir d'avoir avec moi pour cette émission depuis Damas un juriste français spécialiste des questions internationales, Maître Arnon Develet. Maître Develet, bonjour. Merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation.
Merci à vous. Bonjour aux téléspectateurs et bonjour à votre invité.
Et l'autre invité de l'émission d'aujourd'hui, Maître Develet, c'est un écrivain. C'est un analyste politique et spécialiste des questions internationales. Il s'agit de M. Jacob Cohen. M. Cohen, bonjour. Merci infiniment d'avoir accepté notre invitation.
Bonjour à vous. Bonjour à l'invité que je découvre avec plaisir.
Monsieur Cohen, on va commencer avec vous, notre émission d'aujourd'hui. Je viens de lancer le sujet, je viens d'évoquer en fait cette récente déclaration de Mesut Haki Çetin, conseiller pour les affaires internationales de Recep Tayyip Erdogan, président turc, qui a en fait évoqué ses pourparlers entre Israël et la Turquie. Il a énuméré, si vous voulez, l'utilité de ces relations entre Israël et le régime israélien, et ce alors que ces dernières années, les autorités turques, et très particulièrement Recep Tayyip Erdogan, avaient tenu en fait des moments très très critiques à l'égard d'Israël. Comment peut-on expliquer ce qui se passe actuellement entre Israël et la Turquie, s'il vous plaît?
Oui, si vous voulez, vous savez, Erdogan joue sur pas mal de tableaux. Depuis une dizaine d'années, une quinzaine d'années, il joue tous les tableaux possibles et imaginables. L'OTAN, la Russie, Israël, le monde arabe, le monde musulman, Al-Quds. Et là, il s'est rendu compte que finalement, Israël a remplacé la Turquie, qui était un partenaire militaire, surtout militaire, très important jusqu'au début des années 2000 et même jusqu'en 2009-2010. C'était une alliance militaire et la chasse israélienne, par exemple, utilisait l'espace aérien turc pour s'entraîner. Alors que la Grèce, qui a toujours eu une politique arabe traditionnelle. Traditionnellement, la Grèce avait toujours eu des politiques pro-arabes. Et jusqu'au problème de la dette. Et là, ça a basculé. Probablement, il y a eu des pressions économiques. Probablement, la Grèce a découvert... Bon, elle a trahi déjà sur le plan intérieur. Et donc, elle s'est rapprochée d'Israël. Et aujourd'hui, la Grèce est devenue presque un allié incontournable d'Israël. Donc, la chasse israélienne s'entraîne au-dessus de l'espace aérien. Avec le gaz qui est exploité par Israël au large de son territoire, Israël a associé le Chypre et la Grèce dans cette exploitation. Donc, on a créé un axe Israël, Chypre, Grèce, qui coupe quasiment la Méditerranée à l'avancée du régime turc ou de la Turquie. C'est pour ça d'ailleurs que la Turquie cherche à sortir de cet isolement en allant vers la Libye. Et donc, je crois que finalement, Erdogan a dû se rendre compte que il s'est laissé enfermer dans cet axe qui lui est hostile, et que cet axe est renforcé, chaque année il se renforce, et donc il veut tenter éventuellement de le desserrer et de reprendre. Mais je crois que les Israéliens ne seront pas dupes, c'est-à-dire ils exigeront un prix très élevé parce que c'est la Turquie qui est demanderesse dans cette situation.
Et de quel prix parlez-vous, M. Cohen?
Par exemple, la Turquie pourrait mettre la pédale douce sur le rôle qu'elle veut jouer dans le monde musulman, c'est-à-dire le grand défenseur du peuple palestinien, le critique absolu de la politique israélienne, le soutien au Hamas. C'est toute cette politique que le régime israélien peut demander à la Turquie. Et voilà, et je pense que il y aura probablement des négociations très, très difficiles, mais disons, même si ça commence, elles prendront beaucoup de temps. Je vois mal un bouleversement rapide des relations qui se sont établies depuis une dizaine d'années entre Israël et ses voisins, enfin la Grèce et Chypre. Et en même temps, l'éloignement de la Turquie vers d'autres cieux, vers d'autres alliances. Et donc, même s'il y a un rapprochement, il prendra énormément de temps, avec beaucoup de prudence, certes, aussi.
Merci beaucoup. Mais monsieur Devolet, venez d'entendre les explications de monsieur Cohen. Il a en fait dit que voilà, la Turquie a essayé, de cette dernière décennie surtout, de jouer sur plusieurs tableaux. Dans une certaine période, la Turquie de Recep Tayyip Erdogan s'est présentée comme le principal défenseur du peuple palestinien. Ensuite, la Turquie a essayé de vouloir dire que sa politique étrangère s'est articulé sur ce point essentiel qui en fait était le suivant: zéro problème, difficulté avec les pays voisins. Ensuite, la Turquie a abandonné cette politique, surtout en fait ayant cette approche hostile à l'égard de la Syrie. La Turquie a une présence militaire en Irak, une présence militaire au Qatar. Comme l'a dit tout à l'heure M. de Cohen, la Turquie a une présence militaire en Libye. Et maintenant, dans l'état actuel des choses, la Turquie dit vouloir en fait envisagerait, mettons-le toujours au conditionnel, de normaliser avec Israël, d'aller vers la réouverture des ambassades, si vous voulez, des deux parties. Comment expliquez-vous, monsieur Devolet, cette politique d'Ankara, s'il vous plaît?
Oui, alors, écoutez, vous avez souligné en tout cas ce qui caractérise un petit peu la politique étrangère de Erdogan, à savoir une politique étrangère assez erratique, on va dire, assez confuse. Mais ce qu'il faut garder à l'esprit et se souvenir, c'est qu'effectivement, il y a une dizaine d'années, c'était lors du forum de Davos, il y avait eu cet échange effectivement entre le président israélien de l'époque et Erdogan. Et nous étions, si vous vous souvenez, à l'aube de cette décennie qui allait inaugurer cette période dite des printemps arabes. Et donc Obama venait d'arriver à la Maison-Blanche, il avait fait ce premier voyage au Caire. Et à l'époque déjà, la presse israélienne s'était un petit peu offusquée de ça. Ça allait, si je puis dire, conditionner les années qui allaient suivre, où la Turquie allait jouer un rôle indispensable, voire prépondérant dans cette opération de déstabilisation de la région, mais versée sur une tendance qu'il faut évoquer au sein du monde sunnite entre l'Arabie saoudite et l'axe qatari-turc, hein, Donc les frères musulmans essentiellement, et l'idée à l'époque c'était que voilà, l'administration américaine pariait sur ce biais idéologique, cette tendance idéologique pour, si je puis dire, procéder à une série de changements de régime dans la région. Or, on a vu que cette situation a périclité, bien sûr, non seulement parce que le peuple syrien a mis fin à cette campagne, à cette séquence, mais aussi parce que avec le temps, je pense que les choses ont commencé un petit peu à devenir, à être perçues plus sur un plan réaliste. Les erreurs de certains ont été reconnues, même si ça va prendre du temps pour réparer les dégâts qui ont été occasionnés par cette tentation de jouer contre son camp, entre guillemets. Je n'entrerai pas dans les détails. Mais en tout cas, maintenant, avec le retour à la Maison-Blanche, si je puis dire, de quelqu'un qui a plus vocation à jouer le multilatéralisme, à l'opposé de Trump, qui était plutôt assez brut dans sa façon de choisir ses alliés et positionner ses pions, on peut penser que des pressions de Washington dans cette période de transition ont poussé Erdogan aussi à, par le biais de son conseiller, faire des ouvertures à l'État sioniste. Et dans ce contexte-là, je pense qu'il est en train de... Il ne veut pas hypothéquer l'avenir. Nous avons toujours, n'oubliez pas, effectivement, alors il y a, comme M. Cohen a souligné, la dimension de l'Est de la Méditerranée avec ces questions énergétiques et ces questions d'exportation de pétrole, d'acheminement, ça joue certainement. Mais il y a aussi le dossier syrien où, quelque part, même si la normalisation n'existe pas de juré, elle existe de facto, puisqu'on peut quand même voir les deux pays agir plus ou moins de concert dans la façon dont les opérations militaires sont coordonnées, tant par rapport aux manœuvres militaires dans les poches que contrôle encore la Turquie que dans les opérations d'attaque aérienne sur la résistance à quoi se livre l'entité israélienne. Donc c'est presque, j'allais dire, une conclusion qui va de soi, et effectivement je pense qu'on va assister à ce qui a toujours été, somme toute, une alliance traditionnelle, puisque avant les visées néo-ottomanes de Erdogan, la Turquie effectivement a toujours été un partenaire privilégié de l'entité israélienne, et donc je ne pense pas que ce soit un problème pour eux. La normalisation va certainement avoir lieu dans un contexte où la Turquie, on va promettre des choses à la Turquie moyennant cette normalisation, et ça va servir le narratif israélien quant à effectivement monter cette alliance, si je puis dire, sunnite entre guillemets, contre l'axe de la résistance, puisque n'oublions pas que le narratif pour les puissances impérialistes, c'est d'entretenir la fitna, donc artificiellement, au sein du monde musulman. Et donc, je pense qu'on se dirige malheureusement vers une répétition de ce narratif, ou en tout cas, une revitalisation de ce narratif.
Monsieur Cohen venait de faire allusion à cet axe entre la Grèce, Chypre, la question, si vous voulez, du gaz entre Grèce et Chypre et Israël, l'axe en fait auquel venait de faire allusion, également cette question autour du gaz. Il y a eu également de ces derniers temps des frictions entre la Turquie et l'Europe, surtout au sujet, si vous voulez, de la Méditerranée orientale, toujours en ce qui concerne ressources pétrolières et gazières. Et comme l'a dit Monsieur Develé, il va y avoir en fait le retour à la Maison-Blanche d'un nouveau président qui n'est pas en fait très très favorable, à en juger bien sûr par ses déclarations lors de sa campagne électorale à l'égard, si vous voulez, de la Turquie, ou bien, disons-le, à l'égard de la politique adopté par la Turquie. Est-ce que ce sont également des éléments qui jouent sur la politique étrangère de M. Erdogan pour
allait envisager d'aller vers une normalisation des relations avec Israël.
Je crois qu'en l'état actuel des choses, vous savez, entre Israël et la Turquie, ça a été 10 années, c'est énorme, 10 années de tensions, vous savez, quand on n'a plus de relations diplomatiques, enfin, quand on n'a plus d'ambassadeurs, c'est très grave dans les relations internationales, c'est quasiment une guerre froide. Donc, si vous voulez, il y a eu énormément de tensions et donc ça ne va pas se faire assez facilement. À mon avis, Erdogan tente une carte, comme il a souvent tenté des cartes avec la Russie, avec d'autres, et avec la Libye, etc. Et donc, il se dit, bon, je vais ouvrir un nouveau front pacifique, et donc de reprendre langue avec Israël. Mais je crois que, même si Israël, disons, se disait, après tout, pourquoi pas, mais ça prendra, à mon avis, c'est pas aussi évident, cela ne se fera pas comme ça du jour au lendemain. 10 années de tension, 10 années de lutte, de lutte idéologique, politique, de ressentiment aussi. Presque de trahison, parce que, comme l'a dit l'invité, vous savez, la Turquie était un des rares... Enfin, il y avait la Turquie et l'Iran qui étaient les deux seuls pays non-arabes avec qui Israël, depuis 1948 jusque dans les années 70-80, Israël s'est appuyé sur ces deux pays. Et la Turquie est restée un allié stratégique jusque dans les années 2000. Et donc la déception, on peut dire, si on veut, est d'autant plus grande. J'ai regardé ce matin les quelques newsletters de israéliens. C'est vrai qu'ils sont très sceptiques. C'est-à-dire que la désillusion est trop grande pour pouvoir se lancer dans une ouverture. Elle se fera lorsque, probablement aussi, pourquoi pas, si Israël arrive à attirer la Turquie... c'est-à-dire à éloigner la Turquie de l'axe de la résistance. C'est comme elle veut se placer, c'est comme a dit l'invité. C'est-à-dire, vous savez, la Turquie défend le Hamas, défend les organisations de résistance anti-israélienne. Si Israël arrive à éloigner la Turquie de cet axe, bon, à ce moment-là, il y aura c'est un marchandage. Donc le marchandage va probablement avoir lieu avec des choses qu'on saura, nous, c'est-à-dire enfin, les simples citoyens, les simples observateurs, et des tas d'autres choses qui se passeront derrière le rideau avec les pressions économiques, les pressions idéologiques, militaires, etc., que nous ne connaîtrons que bien plus tard. Voilà.
Maître Develi, en fait, Monsieur Cohen vient de le dire, le point intéressant, c'est que c'est la Turquie qui est demandeur, en fait, de ces pourparlers avec le régime israélien. M. Cohen dit que voilà, M. Erdogan veut, en fait, tenter une carte pour faire un marchandage. C'est encore, si cela s'avère exact, c'est quand même... fort bien intéressant pour la Turquie de Recep Tayyip Erdogan, qui s'est présenté jusqu'à présent comme le défenseur, le principal défenseur de la cause palestinienne.
Oui, enfin, je pense que c'est plus de la sémantique qu'autre chose. Les intérêts de la Turquie et surtout du clan Erdogan sont avant tout le moteur de cette tergiversation permanente. Je pense surtout qu'Erdogan, dans la personne de Trump, est en train de perdre un allié de poids. Et si vous voulez, si on essaie de rentrer dans la tête d'Erdogan, et pour paraphraser l'expression d'un autre de vos invités, cette approche bicéphale de la politique étrangère turque, il a besoin de, si je puis dire, préparer le terrain pour continuer cette politique bicéphale. Et donc, dans le contexte de l'arrivée de Biden, Biden a toujours été un fervent soutien d'Israël. Et donc, à partir de là, s'il veut continuer à pouvoir jouer un petit peu entre l'axe de la résistance et la Russie d'un côté et l'OTAN de l'autre, il doit donner des gages. Donc, une façon pour lui, avant que l'équipe de Biden arrive et s'installe, de laisser entendre qu'il y aura toujours moyen de s'entendre et que sur certains points fondamentaux, il est prêt à discuter. Et c'est dans ce contexte précis, effectivement, que je pense que, encore une fois, il est peut-être prêt même à faire des compromis sur son soutien à la cause palestinienne, peu que on lui permette d'exprimer de temps à autre la sémantique de rigueur.
Alors, si je vous ai bien suivi, monsieur De Volley, vous voulez dire que l'administration Biden pourrait aller jusqu'à pousser la Turquie de monsieur Erdogan à normaliser avec Israël?
Oui, je pense que c'est tout à fait dans la continuité de ce qu'on a vu avec les soi-disant accords d'Abraham. N'oublions pas qu'en ce qui concerne la sécurité d'Israël dans la région, c'est le troisième rail de la politique américaine qui va bien au-delà des clivages entre les deux parties. Et donc, je pense que les lobbies israéliens à Washington se contentent parfaitement de cette tendance lourde, la séquence actuelle en tout cas de cette série d'accords soutirés auprès des uns et des autres, et que s'ils pouvaient accrocher la Turquie à leur tableau de chasse, ça serait parfaitement cohérent. Ça permettrait, comme l'a souligné M. Cohen, de retirer un morceau conséquent, effectivement, de la cause palestinienne qui, en fait, est quelque part l'éléphant au milieu du magasin de porcelaine, parce que sans la présence des Palestiniens à tout pour parler, toute cette série d'accords n'a pour but que, en fait, créer un soi-disant front unifié en vue d'une confrontation face à l'Iran, malheureusement.
Maître Arnaud De Volley, je vous remercie infiniment d'avoir été avec moi pour cette émission Le Débat depuis Damas. Mes vifs remerciements vont également à vous, Monsieur Jacob Cohen, d'avoir été avec moi pour cette émission depuis Paris. C'est la fin de l'émission d'aujourd'hui. Merci infiniment de l'avoir suivi. Je vous souhaite à vous toutes et tous une excellente journée. Je vous dis au revoir, amis, et à très bientôt.
La presse a révélé qu'un exercice conjoint mené par les armées chinoises et canadiennes devait avoir lieu en 2019 au Canada. Une perspective inquiétante pour le Pentagone. La décision prise par l'armée canadienne d'annuler cet échange a irrité le Premier ministre canadien, dont la réaction suscite la controverse. Écoutons à ce sujet l'analyse de Pierre Dortiguier, politologue français.
En effet, cette annonce qui a surpris l'opinion publique au Canada même, des manœuvres conjointes sino-canadiennes qui devaient être prévues pour ce mois de janvier, ont été déjà analysées par plusieurs observateurs canadiens, en particulier M. Alexis Cossette dans sa radio Québec, qui lui défend, disons, certaines politiques, disons, orientées vers Donald Trump, par exemple, voyez, contre le candidat Biden. C'est lui qui, chez nous en Europe, a diffusé depuis déjà 2-3 semaines cette information selon laquelle M. Trudeau aurait accepté, disons, de laisser des troupes chinoises participer à des exercices conjoints disons sino-canadien. Alors le contexte de ces manœuvres est celui, vous savez, des scandales, enfin des poursuites qui ont causé des scissions, enfin des scissions, qui ont provoqué des mesures policières, enfin de rétorsion diplomatique. Policière même, disons juridique, aux États-Unis et au Canada et en Chine, vous savez, des sociétés chinoises comme Huawei, par exemple, et la présidente, je crois, Madame Wansu, avait été accusée d'espionnage. Ceci, disons, peut être vu, par exemple, comme une intrusion des États-Unis dans les affaires, par exemple, canadiennes. Mais il y a une réaction à l'intérieur du Canada même, comme l'indique le sénateur Boisvenu, par exemple, contre cette politique de M. Trudeau. Parce que M. Trudeau, il faut le voir, n'appartient pas à un milieu conservateur, car le Canada est un pays, disons, religieux, en grande partie, conservateur, religieux, disons, dans tous les domaines, que ce soit dans la population française, qu'on appelle le Québec, que ce soit également tout ce qui touche la couronne, puisque le Canada, vous savez, a comme autorité suprême la couronne britannique, ne l'oubliez pas. Monsieur Trudeau, lui, a une politique, disons, un peu de caméléon, comme nous disons. C'est-à-dire qu'il est de formation révolutionnaire, il a eu une formation marxiste, et il a mêlé ceci à des ambitions personnelles, et disons qu'il a plusieurs visages. Et ceci, c'est cette agitation qui gêne la politique, qui gêne, disons, les autorités ou les milieux, disons, politiques canadiens, et bien sûr les Américains aujourd'hui, et surtout que M. Trump, nous l'oublions pas, a toujours la haute main sur l'administration militaire, par exemple, la diplomatie, en profite pour pouvoir, disons, parler d'un danger chinois, voyez-vous. Effectivement, y a-t-il des intrigues? Ceci n'est pas encore très, n'est pas très net. Je donnerai comme éclairage à cette situation une opinion qui n'est ni canadienne ni américaine, mais qui est russe. Je voyais par exemple, je lisais par exemple il y a quelques jours un avis d'un ancien dirigeant du GRU, du GRU, qui est ce qu'on appelle les services secrets de l'armée. Et il disait qu'il y avait en Chine même, disons, des gens qui s'opposaient à la politique du président chinois, Xi Jinping, et que ces milieux-là étaient des milieux très agités qui se trouvaient à l'intérieur du Parti communiste, qui étaient, si je puis dire, des milieux hyper révolutionnaires, un peu comme ce que partisans, disons, de mêler les affaires, voyez-vous, le souci des affaires à de l'agitation politique. Il est certain que c'est un milieu trouble. Je crois d'ailleurs que c'est mon opinion, même que visité la Chine il y a très longtemps, qui ai suivi la politique chinoise, je dois dire qu'il est possible que cette affaire de manœuvre manquée au Canada ne soit également l'expression d'une politique de trouble ou de, disons, non pas de trouble peut-être, mais de contradiction, comme on disait autrefois en dialectique marxiste, voyez, de contradiction entre le pouvoir chinois qui est très fort et très solide, celui de monsieur Xi, et des milieux qui finalement sont assez troubles.
Les États-Unis tentent de stopper la nouvelle route de la soie arctique. Les États-Unis se débattent contre la perte de leur influence globale, mais une guerre ouverte étant hors de question ou donner de la tête dans un monde qui a changé, dont les locomotives sont désormais à l'est et dont les fronts se multiplient, avec ici un retour de la guerre froide dans l'Arctique. Il a été dit que le film préféré du milliardaire Howard Hughes était Ice Station Zebra de 1968. Gardé et servi par son fidèle personnel mormon, aux deux derniers étages du Desert Inn et Casino de Las Vegas, il le regardait encore et encore, tout en donnant les ordres par téléphone au mystérieux ancien agent de la CIA, Howard Hunt. Selon Wikipédia, le film tourne autour d'un sous-marin américain envoyé dans les déserts de glace du pôle Nord pour y récupérer un satellite soviétique plein d'images stratégiques de bases américaines. L'atmosphère de guerre froide devient glaciale lorsque le sous-marin, avec à son bord un expatrié russe, un agent secret britannique et un capitaine de marine américain, est saboté en cours de route. Avec Rock Hudson et Patrick McGowan à la lumière de l'actualité et sans effets spéciaux CGI, le film ne tient pas tout à fait la route et la prémisse en semble purement hollywoodienne. Mais est-ce réellement le cas? La guerre froide va-t-elle vraiment s'étendre à l'Arctique? Selon un groupe d'experts en sécurité arctique, pour relever les défis sécuritaires et économiques croissants posés par la Russie et la Chine, les États-Unis ont besoin de personnes et d'équipements résilients, rapporte l'USNI News. La vision de Moscou du Grand Nord comme la Mecque russe et l'ambitieuse initiative de Pékin sur la route de la soie polaire constituent des obstacles économiques pour les États-Unis, selon des experts. S'exprimant cette semaine, donc le commandant en retraite de l'armée de l'air, le général Randy Key, a déclaré que dans le passé, l'Arctique s'était avéré une région où la technologie est toujours mise au défi par les conditions extrêmes. Ces conditions sévères rendent des opérations militaires très exigeantes et très difficiles. C'est toujours le cas aujourd'hui, alors que les températures augmentent et font monter le niveau des mers à l'échelle mondiale et que les conditions météorologiques se font plus violentes. Mais cela rend également la route maritime du Nord, que la Russie revendique comme sienne, plus attrayante comme route maritime vers l'Europe, en particulier pour la Chine, comme l'a rapporté l'USNI News. De plus, cela ouvre l'Arctique à davantage d'exploration et d'exploitation des ressources minérales et naturelles, ce qui répond à un autre objectif de la Chine, la diversification de ses fournisseurs d'énergie. Sur le plan de la sécurité, qui travaille maintenant au Wilson Center 1, a déclaré que la meilleure façon d'améliorer les défis est de conclure des accords de partenariat, tels que l'OTAN et le NORAD avec les Canadiens, et de maintenir une base aérienne à Thule au Groenland. Et si des exercices comme Trident Juncture ont été des éléments de base importants, qui a déclaré que nous devons revenir à l'échelle de l'ampleur des exercices militaires de la guerre froide pour faire face à la nouvelle situation militaire et au changement climatique, comme l'a rapporté l'USNI News. Qui, s'exprimant donc lors d'un forum en ligne de l'Hudson Institute 2, a ajouté que les services dédiés aux stratégies arctiques classeront les défis et les opportunités dans la région. Parmi ces défis sécuritaires, pour Washington et ses alliés, figure la double approche de la Russie dans l'Arctique, la construction de ports et d'aérodromes pouvant donc être utilisés à des fins civiles par la production et le transport d'énergie, le tourisme et la navigation commerciale transpolaire, ainsi qu'à des fins militaires, selon Richard Waits. L'Arctique est le quatrième mur dans la pensée sécuritaire de la Russie, a-t-il dit. Contrairement à ses frontières occidentales, orientales et méridionales, Moscou peut opérer sans avoir à rivaliser avec d'autres dans le Grand Nord. C'est de loin la plus grande nation de l'Arctique, a rapporté l'USNI News. Pour montrer à quel point l'Arctique est devenu important, le Kremlin a désigné la région comme son 5e district militaire. Il y a installé des chasseurs MiG-31 dans des aérodromes et déployé des missiles hypersoniques, tandis qu'il modernise les navires de défense côtière capables d'opérer dans la glace pour en faire des plateformes d'armement. De plus, la péninsule de Kola est le principal port d'attache de la flotte russe de sous-marins lanceurs de missiles balistiques, a déclaré Brian Clark de l'Hudson Institute. La surveillance de l'activité sous-marine est importante, mais la marine américaine n'opère dans le Grand Nord que dans les conditions les plus favorables, a déclaré Clark. Sa flotte de surface n'est pas apte à supporter des conditions extrêmes. La Russie a également fait beaucoup de bruit au début de ce mois lorsqu'elle a déployé l'un de ses systèmes de défense aérienne les plus avancés, le S-300 V4, sur une île du Nord revendiquée par le Japon, comme l'a rapporté Nikkei Asia. Depuis plusieurs années, Moscou s'est donné pour mission de renforcer sa présence militaire en Asie du Nord-Est. Pour contrer les États-Unis, la Russie a modernisé son armement en Extrême-Orient, mis en service de nouveaux navires pour sa flotte du Pacifique et considérablement élargi sa coopération militaire avec la Chine. Selon la Russie, le S-300 V4 a été mis en service le 1er décembre sur l'île d'Iturup, connue sous le nom d'Etorofu au Japon. L'île est l'un des quatre maillons méridionaux de la chaîne des îles Kuril, revendiquée par Tokyo qui les désigne sous le nom de territoire du Nord 3. Cela place des missiles russes sophistiqués aux portes d'Hokkaido, l'île la plus septentrionale du Japon. Clark a également noté un autre avantage militaire russe dans l'Arctique. Comme les communications par satellite sont irrégulières et qu'il y a peu de capteurs dans la région, une attaque électronique russe peut facilement aveugler le petit nombre qui y opère. Ils n'ont pas beaucoup de résilience, a-t-il déclaré. Ces faits rendent la guerre électronique plus préoccupante que dans d'autres régions et il faut y remédier. Quant à l'approche de la Chine, Waits a déclaré qu'au lieu d'être conflictuel comme il y a 6 ans en exigeant la reconnaissance de son cas spécial dans les affaires arctiques, Pékin met l'accent sur le principe gagnant-gagnant. La route de la soie polaire est une locomotive pour des investissements dans des infrastructures, notamment la pose de câbles de communication sous-marins, ainsi que dans des ports, des aéroports et des autoroutes pour créer un effet de levier et influencer les petites nations de l'Arctique, telles que le Groenland. Elle intensifie également les recherches et les efforts scientifiques dans la région, comme l'a rapporté l'USNI News. Howard Hughes avait peut-être raison, après tout.
Thank you. Thank you.